tester cette semaine, et ça marchait bien, mais là, on n'a pas réussi à monter le son. Au moins, vous dire le thème, il a repris beaucoup de choses, évidemment, que sur Jadid, mais il s'est focalisé sur la question du Carmel que les Carmélites avaient voulu installer à Auschwitz. Et il montre très bien que le cardinal Lustiger est intervenu à plusieurs reprises auprès du pape Jean-Paul II, et qu'il a fini par moi dans le film par l'engueuler en me disant « tu es complètement focalisé sur la politique intérieure polonaise, mais tu ne te rends pas compte que dans le monde entier, les gens ne comprennent pas qu'on puisse s'approprier un territoire ou un lieu de mémoire comme Auschwitz en mettant une croix au milieu du paysage. » Et donc voilà, Le dernier élément que je veux dire aussi sur le film, c'est que, évidemment, les dialogues sont inventés, mais ils sont percutants et ils sont appuyés sur des éléments très très documentés. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas dit ça, mais c'est ça qu'il a fait. Et tous les éléments d'intervention de gens qu'il a rencontrés, ou qui. Il s'est engueulé aussi avec Léo Klein à une époque, etc., ou avec le rabbin qui avait précédé
Kaplan,
celui qui était son contemporain. Et tout ça, c'est des choses vraies. Mise en scène magnifiquement par un gars qui s'appelle Cohen. C'est ça qui est sympa aussi.
Merci.
C'est très bien. Voilà, c'est pas fini.
Merci. Non, c'est pas fini. Parce que on a vu avec Robert une émission. C'était donc KTO,
2018.
13 mai. 22 ou 13 mars, je ne peux pas me lire. Enfin bon, c'était en 22, c'est pas très vieux, et ça s'appelait Jean-Marie Lustiger, La foi prise au mot. Et cette émission, donc on l'a vue il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si on peut encore la retrouver, enfin c'est KTO, et les deux historiens qui ont fait ça s'appellent Denis Pelletier et Benoît Pellistrandi. Denis Pelletier et Benoît Pellistrandi. Et cette émission nous a tellement plu qu'on a acheté le livre qu'ils ont publié en mars 23. Ben oui, c'est pas vieux. C'est les actes d'un colloque, donc, dirigé par ces deux historiens. Et ça s'appelle Entre crise et recomposition catholique, 1954-2007, dans une collection Sciences des religions, presse universitaire de Rennes. Donc c'est un travail d'universitaire, voilà. 15 ans après la mort de Lustiger, et ça a donné ce gros bouquin dans lequel j'ai pas mal puisé, mais j'ai même pas fini de le lire tellement il y a deux documents, quoi, c'est fou. C'est-à-dire que vous avez des rubriques, si je trouve la table des matières, je vais vous dire un peu. Il y a le parcours ecclésial, l'aumônier des étudiants du centre Richelieu, gouverner un diocèse en crise. Il n'est pas le seul à avoir eu des problèmes, parce que Mgr Marty avait eu pas mal de problèmes avec les curés parisiens. Décidément, ces curés parisiens. Il y a un article sur la splendeur des liturgies allègres. Alors ça, c'est vraiment très très bien. La réforme liturgique vue par Lustiger, moi je dis, on recommence, hein. Alors, il y a aussi Lustiger, l'épiscopat français, les archevêques de Paris, enfin, il y a un peu de tout, hein. L'Académie française, le prédicateur, qui est à l'état de main morte, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? De l'argent pour de nouveaux projets, l'administration financière du diocèse de Paris, de 80 à 2005, quelqu'un qui s'interroge sur y avait-il un ou des réseaux Lustiger. Évidemment, il y en avait plusieurs, hein, parce qu'on voit bien qu'il fréquentait tous les milieux. Le bâtisseur, les arts et la visibilité de l'Église. Ah, très intéressant. La formation d'un peuple sacerdotal. Ça, c'est aussi une des idées majeures, mais il y en a tellement de lustigées. C'est-à-dire que c'est le peuple entier qui est sacerdotal. Et tout croyant, chez les chrétiens, on dit tout baptisé est prêtre, prophète et roi. Je ne sais pas si ça se dit ailleurs, mais en tout cas, l'idée est bien là. Nous sommes tous chargés de faire avancer l'Église, de la vivre. C'est pas seulement d'avoir des idées et de croire, mais c'est à mettre en mouvement tout le temps, tout le temps. Il y a aussi les Journées mondiales de la jeunesse de Paris en 97. Évidemment, Jean-Marie Lustiger et Jean-Paul II. Et puis voilà, plein d'autres choses. Les problèmes qu'il a eu avec certains catholiques traditionnalistes et intégristes, c'est pas complètement dépassé. La gauche catholique, l'autorité épiscopale. Ah, ce que j'ai spécialement apprécié, j'ai essayé d'en rendre un peu compte, la promesse du Seigneur, c'est la promesse d'une une recomposition du rapport entre juifs et chrétiens. Voilà, parce que c'est ce à quoi il pense qu'on va. C'est ça pour lui la fin de l'histoire. L'affaire du Carmel d'Auschwitz, et puis la modernité, voilà, est lustigée par rapport à l'histoire, avec cette fois-ci une postface d'André 23, parce qu'il avait eu même le culot, on ne peut pas dire autre chose, de nommer son propre successeur. Il avait dit au pape, moi, celui que je veux, c'est 23, parce que ça fait 40 ans que je travaille avec lui. Voilà.
Bon. Prends deux, trois questions. Alors.
Je pense qu'on peut lui poser deux, trois questions, parce qu'elle est timide, mais elle va y arriver.
Non, je ne suis pas timide, mais je ne me sens pas très apte à répondre à des questions, parce que, pour tout vous dire, si j'en disais plus, j'aurais pensé que ça tournait à un témoignage, parce que je l'ai connu, et j'ai connu tous les gens qui sont protagonistes de cette histoire, ou presque. Donc... je ne voulais pas faire justement un témoignage, ce n'est pas le lieu ici, à moins que maintenant on dise, pourquoi pas, on peut regarder un film, faire un témoignage, ou n'importe quelle autre nouveauté que vous voulez. Mais bon, je voulais faire plutôt la conférence telle que je pensais qu'elle m'était demandée. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, j'essaie. Si je ne peux pas répondre, ben, je vous dirai, je ne sais pas faire.
Oui, je voulais poser une question, parce qu'on parle beaucoup actuellement d'un rapport actuellement sur le bien fondé du célibat des prêtres. Est-ce que Lustiger avait une idée sur la question?
Pas à ma connaissance. Alors là, j'ai rien vu là-dessus. Je ne sais pas. Oui, il faut se poser la question. C'est vrai qu'il n'y a que... Il n'y a que dans notre catholicisme que le prêtre ne se marie pas. Je pense qu'il y a des personnes ici qui peuvent mieux que moi dire ce bien fondé. Mais chez les juifs, les rabbins se marient. Ils sont même plutôt invités à le faire. Chez nos amis protestants, on est pasteur. Les femmes peuvent être pasteurs. Elles se marient. On en connaît, qui sont venus ici, peuvent avoir des enfants. Bon, je ne sais pas, il me semble qu'il y a vraiment que chez les catholiques, ce n'est pas possible. Parce que, peut-être que Maurice pourrait dire mieux que moi, quelle est l'idée? Oui, je vous cherchais, Père Alain. Si vous voulez dire quelque chose là-dessus, moi, je n'ai pas entendu que Lustiger parlait de ça. Mais bon, c'est vrai que c'est une question.
La vérité, c'est pas tout à fait juste de dire que chez les catholiques, il n'y a pas de prêtres mariés, puisqu'il y en a. Dans la tradition orientale, les maronites, les melkites, enfin, je sais pas,
les coptes,
voilà. Ceux qui sont catholiques, mais de tradition orientale, peuvent se marier à condition de se marier à un certain moment. C'est-à-dire qu'on peut pas, il faut être marié pour devenir prêtre. On ne peut pas être prêtre puis se marier après.
D'accord.
Ça reste vrai, puis les moines, même chez, même chez les orthodoxes, où les prêtres sont mariés, par contre, les évêques sont toujours choisis parmi des célibataires, donc souvent des moines. Voilà. Donc, il reste qu'on a ces deux traditions dans notre catholicisme.
Merci. C'est vrai que vous faites bien de le dire. Et c'est vrai que même ici, j'ai rencontré une fois un prêtre qui était venu faire une conférence. Il avait été marié, il avait eu 5 ou 6 enfants, et il est devenu prêtre après son veuvage. Et il trouvait que c'était aussi un cadeau du Seigneur d'avoir des gens qui avaient une expérience de la vie familiale et professionnelle, et que ça pouvait peut-être aussi être un plus. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Hein. En tout cas, merci de rappeler que c'est vrai. Dans la tradition orientale, c'est tout à fait possible et ça se fait. Une question, là-bas.
Alors, je n'ai pas de question, mais je vais la poser.
Ça ne m'étonne pas de toi.
Tu disais qu'une de ces idées phares, c'était que la survie de l'Église dépendait de sa redécouverte du judaïsme, de ses racines juives. Qu'est-ce que ça implique concrètement et qu'est-ce qu'il entendait par là?
Dans la mesure où je peux répondre, ça sera aussi à vérifier ou à compléter, je crois d'abord qu'il voulait bien qu'on insiste sur le fait que, en effet, bon, dans les milieux chrétiens, il y a des gens qui ont mis longtemps à vouloir accepter de reconnaître que Jésus était juif, mais pas que Jésus. Ils étaient tous juifs, hein, et tous à la synagogue et tout ça. Donc il y a ça, mais c'est surtout... Alors là, moi, Eliane m'a prêté un livre que j'ai beaucoup travaillé il y a quelques années sur les racines juives de la messe. Et ça m'intéressait beaucoup, ça m'intéresse encore, je travaille encore cette question, parce que beaucoup de, hélas, de chrétiens aujourd'hui ne savent pas trop ce que c'est que la messe, que ça signifie, d'où ça vient. Et en fait, ce livre, je l'ai toujours à la maison, je ne sais plus qui avait fait ça, peut-être Di Carmine, un nom comme ça, en tout cas j'ai le livre, qui montre qu'on n'a rien inventé. On a tout, chez les chrétiens, on a tout reçu des juifs. Et moi, j'aime aussi beaucoup que Jésus ait dit, de toute façon, le salut vient des juifs, tout vient des juifs. Alors, c'est vrai que, si longtemps après, c'est peut-être difficile, mais je crois que si on arrive, je ne sais pas comment, bien ou mal, laborieusement, à retrouver, non pas quelque chose qu'on ait pris aux juifs, mais j'allais dire quelque chose qu'ils nous ont donné. En tout cas, pour moi, d'où est-ce qu'elle vient, ma foi? Elle vient d'Abraham. Hein, je ne vois pas de qui d'autre pourrait venir la foi sur terre. Et j'ai beaucoup aimé, dans notre jeunesse, un prêtre jésuite qui nous a appris, on avait 20 ans, à prier le matin en disant « Père Abraham, mon père Abraham, on priait notre père Abraham ». Et c'est le Dieu, il n'y en a qu'un. Hein, je crois que c'est quand même clair, ça. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est le Dieu des pères. C'est les pères dans la foi. Et ça aussi, c'est une chose que j'aime chez Lustiger, mais ça ferait encore une autre conférence. C'est le commentaire qu'il a fait, je crois que c'est dans la promesse, justement, des 10 paroles. Que chez les chrétiens, on n'a plus autrefois les 10 commandements. Mais les 10 paroles, c'est mieux. C'est mieux, c'est plus juste. Et il commente « Honore ton père et ta mère ». Alors il dit « Honorer son père et sa mère, son papa et sa maman ». Oui, bon, c'est gentil, mais c'est pas ça le sens. Le sens, c'est honorer ses parents, père et mère, dans la foi. C'est-à-dire, c'est honorer, justement, Abraham, Isaac, Jacob, tous les autres qui, jusqu'à nous, ont transmis la foi. Et alors ça, moi, ça me parle. Et je suis très contente que ce soit un juif qui m'éclaire sur ces 10 paroles qu'on ne comprend pas toujours très bien et qui vont beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on en a entendu peut-être parce que les gens ont perdu le sens des choses, hein, c'est tout. Hein, faut retourner à ses racines, c'est retrouver du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on vit. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais à suivre. Oui, quelquefois, je trouve aussi, j'ajoute quelque chose à mon tour, et il m'a fait penser non seulement à, je disais tout à l'heure, le protestant, Jacques Ellul, mais qui a dit beaucoup de choses très très fortes aussi, pas toujours facile à entendre, mais il faut voir les choses en face, et il me fait penser aussi à Philippe Haddad. Parce que Philippe Haddad, que j'aime beaucoup, dont je lis tout ce qui paraît, j'achète les livres, je les prête, on ne les rend pas, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment très bons, donc je vais continuer à acheter un stock. Et il y a quelque chose, je ne sais plus dans quel livre, c'est peut-être dans le livre « Quand Jésus parlait à Israël », peut-être, hein, à vérifier, et dans lequel Philippe Haddad explique de façon très bizarre, en ayant recours à la cabale, s'il vous plaît, que je ne connais pas non plus, il explique que les noces de Cana, c'est pas non plus un gentil Jésus qui veut rendre service, et comme il n'y a plus de vin pour les jeunes mariés, et voilà, il y en a de nouveaux qui arrivent. Il dit, mais ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est le sens? Alors, je ne peux pas faire la démonstration, mais toi, tu saurais peut-être. Il dit, l'eau changée en vin, il prend le chiffre qui correspond au vin, Yayin peut-être, je ne sais plus, et c'est pour, finalement, tous les peuples, parce qu'il trouve, je ne sais comment, le chiffre 70, et que 70, ça veut dire les peuples, tous les peuples de la terre. Donc finalement, ça serait, d'après lui, on prend l'eau de la Torah, et elle va être, cette eau qui est la vie, elle est transformée, ou continuée, je ne sais pas ce qu'il faut dire, pour que ça soit une révélation pour tous les peuples de la terre. Et j'aime bien aussi, c'est toujours pareil, les choses se croisent dans une vie. Une prière qu'on a toujours dite et chantée avec Robert depuis notre jeunesse, c'est celle qu'on trouve en Luc 2, c'est la prière de Siméon, le vieillard Siméon, qui dit « Maintenant, ô maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut » que tu préparais à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Ben ça aussi c'est clair, c'est la gloire d'Israël qui a la révélation et qui, je ne sais pas comment, mystérieusement, au fil du temps, malgré tout ce qu'il y a comme embûche et comme horreur, eh bien ça se transmet en lumière pour tous, pour toutes les nations. Et ça, c'est vraiment, vraiment du pur lustiger.
Ce qui me paraît extrêmement touchant dans ce parcours de Jean-Marie Lustiger, il avait plusieurs occasions d'oublier, de renier ses origines juives. Et je dirais, malgré qu'il soit devenu chrétien, il est resté juif.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il a toujours reconnu ses parents, ses frères, ses sœurs, et c'est, je trouve ça très touchant, cette façon de se dire oui, et quand bien même je suis catholique, je reste juif. Je ne sais pas ce que tu en penses, Solange.
Et oui, mais c'est sûr, c'est ça qui est le plus incroyable, mais moi c'est ça qui me fait croire en ce qu'il a fait, son témoignage et tout, et c'est ça, il dit toujours que c'est ça sa vocation. C'est d'être les deux à la fois, c'est-à-dire que non seulement il voulait faire un pont entre les juifs et les chrétiens, ce qui était déjà très bien, hein, mais il l'a vécu dans sa chair et dans sa souffrance d'être les deux, voilà, et de se faire traiter de renégat ou de tout ce qu'on veut. Bon, il a traversé ça parce que c'était ça, comment dire, c'était pour lui incarné dans sa vie la promesse du Seigneur, enfin, lui, il l'entend comme ça. Et c'est vrai que c'est une des choses qui ont été les plus remarquées chez les gens qui ont fait des éloges de lui. Je parlais tout à l'heure des gens qui étaient complètement incroyants, même anticléricaux, qui ont dit, eh bien, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'il a toujours défendu Mordicus sa judéité, jusqu'à la fin. Voilà.
Là, là, on voit une certaine intégrité.
Complète. Une
très forte intégrité.
C'est, alors ça, c'est un homme honnête.
Ouais, voilà.
C'est un homme honnête, mais voilà, il prend les choses, le titre, la foi prise au mot, c'est ça. Sa foi, il l'a prise au mot, il l'a vécue.
Et en fait, si je vais plus loin, pour lui, ce n'est pas une trahison de devenir chrétien.
Mais évidemment que non.
On est d'accord, hein, là, là, pour lui, il n'y a pas de trahison.
Mais il n'y a pas de trahison parce que pour lui, les chrétiens sont, comment dire, comme une secte juive dissidente entre nous qui n'aurait pas très bien tourné, quoi. Hein, parce qu'elle est tombée dans le pouvoir, le désir de reconnaissance dans le monde et qu'elle a, elle n'a pas été au service. Et je pense qu'il est même assez sévère pour nous, les païens, qui sont, comment on dit, c'est un, l'olivier franc, hein, planté sur l'arbre des autres. Et ben oui, mais c'est la même sève, c'est la même vie. Et c'est pas qu'on la prenne aux autres, c'est je sais pas comment dire, la sève, elle coule de l'un à l'autre, qu'on le veuille ou non. Et il y a plein de choses qui peuvent ne pas nous plaire. Mais bon. Et moi aussi, il y a une chose qui m'a plu, c'est de voir que le premier grand rabbin, je ne sais plus comment il s'appelait, le premier à son époque.
Kaplan.
Pardon ?
Kaplan.
Non, c'est pas Kaplan, je pense à un autre qui s'était opposé à lui. C'est pas ces trucs, c'est celui d'avant. Je ne sais plus. Et qui, au bout d'un temps, a reconnu justement l'honnêteté complète de Lustiger. Et ça, je me dis, ça, c'est quand même un revirement formidable. Alors, il y avait une blague qui circulait à Paris, n'est-ce pas, Robert, à l'époque, on disait, le grand rabbin, le grand rabbin est séfarade. Et pourquoi ? C'est parce que l'archevêque est ashkénaz.
Et le mystère de sa foi, comment, là c'est impénétrable, comment, on sent que c'est quand même un homme qui a une énorme foi, on aura envie de comprendre hein, cette foi, mais bon là c'est son secret peut-être.
Non, c'est pas secret, je crois qu'on peut pas savoir. C'est pour ça que je dis, après, c'est plus une conférence, c'est du témoignage. Peut-être que chacun pourrait dire, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis juif, chrétien, catho, protestant, incroyant, qu'est-ce que je fais? Ben, je sais pas, il y a ce mystère de chacun, hein, c'est pas que Lustiger. Mais les deux journalistes, pas ceux du colloque, les premiers là, qui l'ont titillé tout le temps à essayer de le mettre en défaut, de façon que je trouve parfois un petit peu déplaisante, l'ont tout le temps attaqué là-dessus. Ben alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez que je vous dise, ben oui, j'ai eu une sorte de révélation, voilà, j'avais 14 ans, ça m'est tombé dessus, et puis c'est tout, et puis il ne peut rien dire de plus, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Si on te demande pourquoi tu es ce que tu es, ou à moi on me demande pourquoi, je ne sais pas, oui, je ne sais pas. Ça a été transmis par d'autres, et puis surtout, le Seigneur nous appelle, à mon avis, beaucoup par les textes et par les autres. C'est dans les rencontres, finalement, souvent. Et puis, de temps en temps, il y en a qui ont une illumination. Claudel, Lustiger, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais on ne peut pas dire des choses comme ça. C'est indicible, à mon avis.
Moi, je pense que c'est pas une question que je posais. Simplement, petite remarque. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'opposants par rapport à Lustiger. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient pour lui.
Tout à fait.
J'ai trouvé que c'était un peu négatif sur certains points. Il y avait quand même pas mal de gens qui étaient vraiment en grande faveur et qui l'ont soutenu. Puis un petit truc aussi, t'as passé rapidement sur le prédécesseur de Lustiger à Orléans.
Riobé.
Riobé. qui était un homme extraordinaire.
Il paraît.
Qui a fait des choses extraordinaires, et en particulier par rapport à la violence et la non-violence, et qui a bougé énormément. Et justement, une des choses qu'on a regrettées, c'est que Mgr Lustiger a rarement, presque jamais parlé de Guérigomé.
C'est exact. C'est exact. J'ai vu ça aussi, je l'ai lu.
Bon, c'est pas pour diminuer la valeur de Lustiger.
Non, non, mais je pense qu'il avait ses défauts comme les autres. Il y en a qui l'ont bien vu. Hein. Moi, j'ai deux cousins qui ont travaillé avec lui qui disent, je leur demande comment vous aviez vu Lustiger à la commission d'art sacré. Oh, il dit quel caractère. Il envoyait tout promener, ses collaborateurs, les gens. Il piquait des colères quand on n'avait pas compris tout de suite ce qu'il voulait. Bon, mais il y a ça, mais il y a tout le reste. Et je crois que j'ai quand même dit, peut-être j'ai pas assez développé, mais qu'il avait des fidélités et incroyables. Des gens que, enfin je sais pas, moi j'ai vu dans ce milieu étudiant dans lequel j'étais, mais c'est vrai qu'on aurait fait n'importe quoi avec lui, n'importe. Et parce qu'il était toujours tellement juste, tellement courageux, tellement... Voilà, il forçait l'admiration même de ses adversaires. C'est ça aussi que j'ai essayé de dire. Ceux qui l'ont combattu et qui ont changé d'idée. Mais oui, il faut voir aussi le... c'est un... Comment dire? C'est un monde qu'on n'a pas encore complètement exploré, je pense. L'influence qu'il a eue, mais partout, et bien au-delà du catholicisme, bien au-delà de la France. Une influence énorme, et je pense qu'il en a... Il faudrait qu'il en ait encore. On en a besoin.
Il a aussi, je veux dire inventé, plus ou moins inventé, fourni une formation pour les séminaristes. Mais il a cassé un petit peu le modèle de façon à créer des communautés. Au lieu d'avoir un grand rassemblement de 50, 100, 200 séminaristes en même lieu, de faire des petites maisons, une communauté. Qui se gère et qui en même temps suivent des cours normalement comme tous les autres. Et ça, c'était quand même quelque chose de nouveau pour la France.
Tout à fait.
Je crois que Alain soit pas contre. Et moi, j'ai participé au GMJ de 97, et étant au service national des vocations, et bien les relations avec Monseigneur Lustiger, moi je ne les ai pas trouvées trop difficiles. Hein.
Non, mais moi non plus.
C'est pour ça que je voulais apporter une petite note un peu plus positive sur, justement, avec pas mal de gens qui étaient en faveur de lui et qui ont soutenu ce qu'il a fait. Quoi.
Et encore maintenant. Mais on n'a pas fini justement de voir l'impact qu'il a eu et qu'il aura. C'est bon ? On se quitte là-dessus ?
Bien, bien. Merci.